Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes allés faire notre marché aujourd'hui avec Martin Guez qui a déniché plein de bonnes affaires et le filet de Mondial Sport est bien garni. Beaucoup de foot pour commencer avec la reprise du championnat d'Allemagne où le Bayern a été tenu en échec chez lui. La reprise également dans plusieurs championnats africains. À l'ouest, on fera un stop au Mali avant de mettre le cap sur l'Éthiopie où les clubs d'Addis Abeba vont faire sécession. L'Afrique où la valse des sélectionneurs continue après la CAN. Vaïd Halilhodžić lui arrive au Maroc alors que le Nigeria a prolongé Garnotroor. Nous les entendrons tous les deux. L'Afro basket féminin lui se referme à Dakar. Tout le Sénégal est derrière les Lions à la veille de leur finale face au Nigeria. Reportage de Babacar Fall. Et puis, dernière étape de notre voyage du soir, l'Afrique du Sud. Les box sont de retour sur le devant de la scène à un mois de la Coupe du Monde de rugby. Et pour mener cette émission à bon port, Alice Ménard est à la réalisation. Mais pour l'heure, pour ouvrir la page football, on file en Allemagne où l'heure de la rentrée a sonné et les cloches également pour le Bayern Munich, le champion en titre tenu en échec à la maison. Bonsoir Julien Méchaussier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, Julien. Les Bavarois n'étaient pas mécontents de retrouver la compétition après un mercato très critiqué chez vous, mais le Bayern n'a pu faire mieux hier soir en ouverture de cette nouvelle saison que ce match nul 2-2 contre le Hertha Berlin.
Ouais, mauvais départ hein, pour les Bavarois à la maison hein, avec ce match nul, vous l'avez dit, donc pas forcément une surprise hein, tant le Hertha ces dernières saisons fait partie de ces rares équipes qui arrivent à poser des problèmes au recordmeister. Pourtant hein, bah, tout a commencé un peu comme toujours hein, avec l'ouverture du score signé Lewandowski, mais voilà, derrière le Hertha a égalisé et s'est même offert le luxe de mener au score à l'Allianz Arena, un second but hein, qui est venu après une erreur du français Benjamin Pavard, titulaire en défense centrale pour son premier match officiel, au contraire hein, de l'autre recrue française, Lucas Hernandez, pas encore prêt physiquement. Heureusement pour le Bayern, Lewandowski a signé un doublé qui permet de sauver les meubles. Mauvais départ hein, donc qui a cependant été vite éclipsé en zone mixte hein, par cette annonce du président bavarois Karl-Heinz Rummenigge, le transfert de Coutinho rendu officiel cet après-midi.
Je souhaite remercier le FC Barcelone. J'entretiens des liens d'amitié très forts avec le président catalan et peut-être que oui, à la fin des négociations, ça a un peu aidé pour faire venir Coutinho au Bayern. C'est un transfert très important pour nous. Pas parce que c'est un grand nom, mais pour sa qualité. Il va beaucoup nous aider devant et nous sommes très heureux de ce transfert. Il s'agit d'un prêt d'un an avec option d'achat.
Une nouvelle qui tombe pile au bon moment, Julien, pour le Bayern dont le mercato était jugé raté jusqu'ici chez vous.
Oui, et malgré hein, des investissements très lourds, on sait pour Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, hein, respectivement 35 et 80 millions d'euros. Mais voilà, depuis les départs de la doublette Robéry, Robben et Ribéry, et ben, les supporters du Bayern, hein, ils n'attendent qu'une chose, des renforts devant. Et c'est pas la signature hein, cette semaine de l'international croate Ivan Perisic qui a calmé les esprits, hein, une venue jugée comme un plan B, voire C, après l'échec Leroy Sané et sa grave blessure avec Manchester City. Alors là, oui, avec Coutinho, le FC Bayern frappe un grand coup. Les Bavarois hein, qui élargissent encore plus leur colonie française avec une autre officialisation cet après-midi, c'est celle de la venue du jeune espoir français Mickaël Cuisance en provenance du Borussia Mönchengladbach.
Et puis aujourd'hui, 5 autres matchs ont eu lieu et notamment l'entrée en lice, Julien, du Borussia Dortmund avec, à l'inverse du Bayern, de nombreux transferts qui ont impressionné le BVB qui vise clairement le titre cette saison.
Exactement Eric, 130 millions d'euros d'investissement à l'intersaison. On a suffisamment reproché au Borussia ces dernières années de se cacher, mais pas cette fois. Hein. Des dirigeants aux joueurs à travers tout le club, on parle clairement du titre et ça commence plutôt pas mal hein, avec cette victoire cet après-midi 5-1 à domicile, c'était face à Augsbourg. Et déjà les nouveaux hein, qui se mettent en valeur, Mats Hummels de retour dans la roue, était titulaire en défense centrale, tout comme Thorgan Hazard sur l'aile droite, le transfuge de Gladbach, Julian Brandt, l'autre gros transfert de Dortmund qui vient de Leverkusen et grand espoir du football allemand, lui est rentré et a inscrit le cinquième but. Et puis les hommes forts qu'on connaît de la saison dernière sont déjà là. Paco Alcacer a signé un doublé alors que Sancho et Marco Reus ont également marqué. Et le BVB, déjà leader, Eric, de cette Bundesliga.
Une Bundesliga qui s'annonce très serrée donc entre le Bayern et le Borussia, mais derrière il y a beaucoup de monde. On pense notamment au futur adversaire de Strasbourg en Ligue Europa, l'Eintracht Francfort ou encore le RB Leipzig.
Oui, un gros morceau pour les Strasbourgeois face aux demi-finalistes de la dernière Ligue Europa. L'Eintracht qui a certes beaucoup perdu cet été, on pense évidemment à Jovic parti au Real Madrid ou encore au Français Sébastien Haller qui a signé à West Ham. Mais voilà, Francfort a réussi à conserver ses cadres comme le gardien Trapp ou encore Sébastien Rode. Premier élément de réponse pour les Strasbourgeois sur la forme de l'Eintracht, Eric, ce sera demain à 15h30 avec la réception d'Offenheim. Une rencontre qui sera suivie par Union Berlin, RB Leipzig. Union Berlin, c'est un petit peu mon coup de cœur de cette saison. C'est l'un des promus et c'est la touche romantique de cette Bundesliga. Union Berlin, c'est ce club de l'ancien Berlin-Est, l'identité contestataire née à l'époque de l'ex-RDA et aux racines ouvrières. Alors avec son petit budget et son stade entouré par la forêt, l'Union sera l'une des attractions de cette saison, Eric.
Julien Méchaussier à Berlin, en Espagne aussi, c'était la reprise et le champion en titre, Barcelone, s'est carrément incliné. Et hier soir, 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Le Barça battu lors de la reprise, ce n'était plus arrivé depuis 2008. Le club catalan qui a également perdu Luis Suarez dans l'affaire. Il est blessé au mollet, absent pour un mois. Pendant ce temps, le Real Madrid n'a pas raté son entrée aujourd'hui en s'imposant 3-0 au Celta Vigo. Karim Benzema, Toni Kroos et Lucas Vázquez ont marqué alors que Valence a battu la Real Sociedad 1-0. Un but de Kevin Gamero. L'Espagne, on en reparle demain dans Mondial Sport avec Pierre Chaperon, qui sera en direct du Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid. En Angleterre, c'était déjà la deuxième journée. Le champion sortant, Manchester City, a été tenu en échec par Tottenham, 2-2, dans ce qui était le choc du jour en Première Ligue. Eric Lamela et Lucas ont répondu à Raheem Sterling et Sergio Aguero. Un résultat qui profite à Liverpool, vainqueur 2-1 à Southampton. Sadio Mané a débloqué le compteur des Reds juste avant la pause. Deuxième but signé Roberto Firmino, 2-1 également pour Arsenal avec des buts d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang pour les Gunners. Les deux clubs se partagent la tête du championnat. Manchester United peut les rejoindre en cas de victoire à Wolverhampton. Demain, deuxième journée en France également, au lendemain du carton de Lyon face à Angers, 6-0. Marseille a fait match nul, 0-0 à Nantes. La recrue offensive du club, l'Argentin Dario Benedetto, s'est illustrée en ratant totalement un pénalty à la demi-heure. Nouvelle défaite 3-0 de Monaco à Metz avec un doublé du Sénégalais Habib Diallo pour les Messins. Et Lille, réduit à 10, a perdu à Amiens 1-0. Les championnats qui reprennent donc un peu partout en Europe, mais pas seulement, en Afrique aussi, les footballeurs ont remis leur petit cartable et leur crampon. Et pour nous en parler, sans son cartable ce soir, Martin Guez. Bonsoir, oui, Martin.
J'ai pris un stylo quand même.
Vous avez quand même votre stylo. Oui. Par où commencer, Martin? Nous avons l'embarras du choix. Algérie, RDC, Burkina, Côte d'Ivoire, Angola, mais aussi le Mali, où le championnat s'est été arrêté depuis plus de 2 ans.
Ah oui, Eric, une très longue attente pour le public malien en raison de profonds désaccords sur l'identité des clubs ou encore sur le format de la compétition. Un compromis a finalement été trouvé. 23 équipes prennent part au championnat à partir de ce week-end. Une poule de 12 équipes, une autre de 11. Les deux premiers de chaque groupe s'affronteront à la fin pour désigner le champion, ça paraît logique, et pour désigner aussi un successeur au stade malien, vainqueur des 4 précédentes éditions. Au cœur de la crise, la FIFA avait dû intervenir, suspendre le Mali et imposer un comité de normalisation. Alors c'est forcément un grand soulagement qui prédomine chez les présidents de club avant cette reprise, à l'image de Sédou Sow, le dirigeant du Real de Bamako.
En tant que président du Real, je parle au nom de tous les clubs. Le problème qui se posait, c'était un problème de texte. Et dès que ça a été résolu à l'Assemblée Générale du 13 juillet, pour que les 23 équipes jouent le championnat, ne voulaient pas. Donc nous, on a toujours voulu jouer le championnat et tous les clubs ont accepté de jouer sans autre condition, parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas de football. Toutes les équipes ont envie de football, les Maliens ont envie de football et je suis très heureux que ce championnat commence par la première journée hier et qu'il se poursuit jusqu'à demain. Et j'espère que ce championnat ira jusqu'au bout. Très confiant sur le déroulement du championnat parce que toutes les équipes en veulent.
Voilà, très confiant, Sédou Sow, le président du Real de Bamako, au micro de Mamadou Kalouga.
Le Mali a bien repris, mais aussi à la Côte d'Ivoire, où la SEC Abidjan a un nouvel entraîneur.
Ah oui, le français Julien Chevalier va prendre place sur le banc des Mimoses. Lui, l'ancien adjoint de Claude Leroy, à la tête de la sélection togolaise. Un Chevalier en reconquête dès lundi face au Racing d'Abidjan, car le champion en titre, c'est la société Omnisport de l'armée qui affrontait Williamsville cet après-midi. Guêpes et militaires qui se sont quittés bons amis, mais dos à dos, de partout. Un championnat qui a aussi repris en RDC. C'est le tenant du titre, le TP Mazembe, affrontera mardi un revenant, Bukavu Dawa, le club du Sud Kivu, une région où deux premiers cas d'Ebola ont été confirmés. La Ligue congolaise et les clubs, TP Mazembe en tête, encouragent d'ailleurs la prévention et recommandent de bien se laver les mains aux supporters, un geste simple mais primordial. Et puis en Burkina, cette saison, on attend la confirmation pour le Raïmo FC, club tout jeune, Eric, créé en 2012, mais dans l'élite burkinabé seulement depuis 2016 et qui a réalisé le doublé coupe championnat l'an dernier, le club de Bobo Dioulasso, qui a démarré doucement 0-0 hier soir sur la pelouse de l'US Ouagadougou.
À l'Ouest, rien de nouveau. Vous avez lu le livre, hein, Martin, c'est ça hein? Oui. À l'Ouest, rien de nouveau. Donc, si ce n'est le renouveau, justement, au Mali. Tandis qu'à l'Est, l'Éthiopie entame une petite révolution.
Ah oui, les clubs d'Addis Abeba font sécession. Adieu la première ligue éthiopienne. Bonjour, un tout nouveau championnat. 18 équipes de la capitale ont signé un accord pour créer une nouvelle ligue à part. Pour l'instant, aucune date n'a officiellement été fixée pour le lancement de cette compétition. Mais ça ne fait désormais plus de doute. Les deux principaux clubs d'Addis, Saint-Georges et Café d'Éthiopie, ne joueront plus dans la Ligue Nationale. Ils affronteront de leur ville les autres petits clubs de niveau inférieur. Une sorte de rétropédalage pour repartir sur de bonnes bases, car entre le manque de moyens, les faibles revenus générés, les tensions communautaires, ou encore les violences dans les stades, il y avait plus d'une raison de vouloir faire bande à part, comme l'a constaté notre correspondant en Éthiopie, Vincent Dublange.
Geza Eng Wolde a mené une recherche et rédigé le rapport qui recommande à l'ensemble du football éthiopien de suivre cette voie. Il prend l'exemple de l'Afrique du Sud, un championnat professionnel avec deux divisions et des championnats régionaux, amateurs ou semi-pro, avec un tournoi final pour décider du champion.
Nous avons pris cet exemple. En Éthiopie, nous n'avons pas de club professionnel. Donc si l'on veut en arriver là, nous devons commencer par renforcer nos fédérations régionales. Ensuite, quand nos clubs seront plus forts, nous pourrons aller vers une première ligue et une professionnalisation. Pour l'instant, l'heure est à la compétition sur une base régionale.
La plupart des 16 clubs du championnat majeur masculin éthiopien ont des infrastructures qui demeurent limitées et rendent difficile la pratique du foot. C'est ce qu'explique Mansour Abdulkani, journaliste et célèbre animateur d'une émission de radio consacrée au football sur Bisrat FM.
Même certains clubs de première ligue n'ont pas de stade, de terrain convenable. Il n'y a même pas de pelouse sur certains. Un joueur du club de La Défense me disait que le terrain des Wolaita Dicha, dans le centre-sud du pays, était comme ça, même pas droit. Tu ne peux pas développer ton talent sur ce genre de terrain inconfortable et arriéré.
Selon le spécialiste, cela explique que la moyenne de buts par match soit descendue à 0,48 buts. Que 18 clubs aient disparu des radars depuis l'instauration d'un championnat unique national il y a 20 ans. D'où l'intérêt, selon Mansour, de revenir à la situation de 1998.
Une ligue séparée serait jouée sur un stade, donc tous les clubs joueraient sur le même stade, ce qui permettrait d'avoir un meilleur terrain et d'économiser de l'argent.
Les économies réalisées sont l'un des arguments. 58 millions de beurs, 1,8 million d'euros par an, c'est le minimum pour un club de première ligue éthiopienne selon le journaliste. Les déplacements coûtent en effet énormément dans un pays vaste et montagneux. Des clubs ont aussi fait venir des joueurs étrangers qu'ils paient pour certains plusieurs milliers d'euros par mois.
La première ligue éthiopienne ne génère pas d'argent. Plus de 95% des clubs sont publics, dont une grande partie sont municipaux. Et les municipalités utilisent les impôts pour financer le budget des clubs. Mes impôts, je préfère largement qu'ils soient utilisés pour des hôpitaux plutôt que pour ce football médiocre.
Cette nouvelle ligue doit donc faire économiser de l'argent aux clubs d'Addis et leur permettre de mieux se développer. Selon Geza Eng Wolde, l'auteur de l'étude, c'est aussi un moyen de réduire les tensions ethnico-politiques. Elles ont conduit à de nombreuses violences avec des morts, des matchs arrêtés et même des suspensions du championnat. Et ça n'allait pas en s'améliorant, estime le spécialiste Mansour Abdulkani.
Je suis persuadé que si on poursuit sur le même format la prochaine saison ou celle d'après, on aura 15 ou 20 morts dans les stades. Tous les scénarios nous mènent à ce genre de désastre, donc il faut dire stop.
Mais les autres fédérations régionales seront-elles convaincues? La fédération éthiopienne de football, elle, n'a pas d'avis officiel sur l'étude menée par la fédération d'Addis. La fédé nationale dit n'avoir pas reçu officiellement de proposition de réforme de qui que ce soit. Bayrou Tilaoun, son porte-parole.
Donc, s'ils ont une requête à faire, ils doivent nous envoyer une demande formelle et ensuite elle sera mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre, mais les 18 clubs d'Addis Abeba qui ont signé l'accord semblent décidés au risque de se mettre dans l'illégalité et en conflit ouvert avec leur fédération nationale. Vincent Dublange, Addis Abeba, RFI.
Et pour éviter que les puristes du foot ne m'en veuillent, il faut jamais tourner le dos de son écran trop tôt. Je vous signalais que Valence avait battu la Real Sociedad. C'est faux, 1-0. La Real Sociedad avait égalisé au bout du bout des arrêts de jeu. Un but partout, donc entre les deux équipes aujourd'hui. Merci à Martin Guez pour ce correctif. Voilà donc pour le foot au niveau des clubs, mais côté sélection, il y a aussi à dire, notamment sur les bancs des équipes nationales africaines. Et de 12, la moitié des formations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la dernière CAN, se sont séparées de leurs techniciens.
Et dernière en date, Eric, l'Angola, le Serbe Sardjan Vasiljevic, quitte ses fonctions après un accord à l'amiable avec sa fédération. Lui qui dénonçait l'amateurisme de ses dirigeants et des arriérés de paiement. Des manques également pointés par certains cadres de l'équipe après la CAN en Égypte. On le rappelle, les Palancas Negras s'était arrêté au premier tour, troisième du groupe E. L'Angola qui a désormais pour objectif de se qualifier à nouveau pour la prochaine édition de la CAN en 2021 et qui se retrouve avec la RDC et le Gabon en qualification.
Et l'Angola a désormais donc sans sélectionneur, tandis que le Maroc lui a trouvé un remplaçant à Hervé Renard, et c'est un sacré connaisseur du foot africain qui prend la suite de l'homme aux chemises blanches.
Oui, Vaïd Ali Lodzic est de retour au Maroc, un ancien Canari pour remplacer un Renard à la tête des Lions. C'est une drôle d'histoire que je vous raconte là, Eric, pour le technicien franco-bosnien qui avait dirigé le Raja Casablanca, c'était il y a plus de 20 ans, remportant le championnat et la Ligue des Champions. Coach Vaïd, qui avait aussi qualifié les éléphants de Côte d'Ivoire pour le Mondial 2010, avant d'emmener les Fenecs algériens jusqu'en huitième de finale de l'édition 2014. Vous l'aurez compris, qualifier ses équipes en Coupe du Monde, voilà une mission que réussit plutôt bien l'ancien entraîneur nantais. Et ça tombe bien, mener les Lions de l'Atlas au Mondial en 2022 au Qatar, c'est l'objectif fixé par la fédération marocaine. Vaïd Ali Lodzic, qui arrive avec sa soif de vaincre un Lion avec de l'appétit. Et ça s'entend.
J'adore gagner. Moi, je suis malade quand je perds. Ça, c'est quand j'étais entraîné au Raja il y a 20 ans. Je changeais, je suis encore plus soif des victoires, des succès. Je vous dis franchement, j'aimerais bien amener encore une équipe Coupe du Monde, faire peut-être la même chose que je fais avec l'équipe Algérie. Coupe du Monde, ça reste top de top, même financièrement. Voilà.
Voilà l'humour de coach Vaïd qui n'a pas perdu de temps. Déjà une première liste de 46 joueurs pour un stage, ce sera début septembre, avant d'affronter le Burkina, le Niger en amical. Une liste où l'on retrouve un certain Adel Tarabt, absent de la sélection depuis 5 ans.
L'humour d'Ali Lodzic, et puis l'un des rares à être resté en poste, c'est l'un des boulonnables Gardotror qui plane toujours à la tête des Super Eagles du Nigeria.
Oui, une équipe qui n'avait plus pris part à la Coupe d'Afrique depuis 6 ans et son parcours victorieux en 2013, absent en 2015, absent en 2017. Les Nigérians ont terminé à une belle troisième place en Égypte en 2019. Le technicien franco-allemand était courtisé par d'autres sélections africaines, mais l'ancien joueur et entraîneur des Girondins de Bordeaux, à qui il restait une année de contrat, a finalement prolongé avec les Super Eagles. Après avoir qualifié le Nigeria pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, Gardotror est sur une bonne dynamique et il a survécu au coup de faucheuse puisque 12 de ses confrères ont quitté leur fonction après la CAN. Gardotror compatissant, mais encore plein d'appétit après 3 ans à la tête des Aigles.
Chaque CAN, vous avez ça. Il y a des entraîneurs qui sont limogés et je suis toujours solidaire de mes collègues. J'ai aussi subi ce sort à un moment donné. Là, on veut absolument me garder, donc ça me fait plaisir, mais c'est dur pour eux. C'est dur parce que c'est pas toujours de leur faute. Et c'est toujours l'entraîneur qui trinque, on le sait. On a la responsabilité, mais on a parfois pas toujours les pleins pouvoirs. On m'a laissé travailler au Nigeria, ça j'apprécie, mais parfois aussi avec des petits problèmes, comme partout. Mais en Afrique, c'est spécial et on est très impatient avec les résultats.
La CAN 2021, on va affronter le Lesotho, le Bénin, la Sierra Leone. Quelle est votre impression là-dessus?
Oui, il y a un tirage au sort qui a été effectué. Il y a le Bénin qui a fait un super parcours aussi à la CAN, avec mon ami Michel Dussillé qui a fait un excellent travail. C'est un derby, puisque c'est le pays voisin. Il y a le Lesotho et Sierra Leone, qui sont comme le Burundi ou Madagascar, peut-être aussi des équipes surprises, on l'a vu. Il y a aussi, bien sûr, le calendrier qui fait que ça ne commence au mois de novembre seulement pour nous. Donc il y a un peu de temps de savoir où on va être, comment on va se préparer, améliorer l'équipe. Il y a des postes, notamment au niveau du gardien de but, où on doit travailler beaucoup. Éventuellement remplacer le buteur. Ce sont les deux postes clés dans une équipe. Donc, il y a un beau challenge avec le Nigeria aussi.
Quels étaient les meilleurs moments passés à la tête des Super Eagles pour vous?
Ah, c'était la qualification pour la Coupe du Monde sans aucune défaite, avec encore un match à jouer, même avant la fin. C'était la qualification sans faute aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations, devant l'Afrique du Sud, qui pourtant nous avait battu dans le premier match. Et c'était aussi d'avoir fourni ce football avec de jeunes joueurs, d'avoir su renouveler les cadres et d'avoir su redonner, après 4 années d'absence, une bonne participation et une médaille à ce grand pays de football.
Voilà, Garnot Ror qui répondait à notre correspondant au Nigeria, Bright Abiola. Prochain objectif donc pour les Super Eagles, se qualifier pour la CAN 2021 au Cameroun. On le rappelle, il faudra se sortir d'un groupe composé du Bénin, du Lesotho et de la Sierra Leone.
Allez, je prends la balle au rebond, on passe au basket. Ça y est, on connaît l'affiche de la finale de l'Afro-Basket féminin à Dakar. Et comme attendu, comme lors de la dernière édition, eh bien, le titre se disputera entre le Nigeria et le Sénégal. Et
oui, une affiche prévisible, Eric. Mais que ce fut dur pour le Sénégal en demi-finale, à domicile au Palais des Sports de Diamniadio, cette ville nouvelle, toute nouvelle, sortie de terre il y a peu, les Lyons, ont eu un mal fou à se défaire d'inattendu mozambicaine ce vendredi. Menées tout le long du match, les Sénégalaises, 11 fois vainqueurs de l'épreuve, se sont rattrapées au tout dernier moment pour finalement l'emporter 60-57, alors qu'elles avaient 16 points de retard. À la pause, une belle remontée. Les joueuses de Cherssar qui ont eu très très chaud, et les supporters aussi, comme a pu le constater Babacar Fall, qui a pris la température dans la Dakar Arena. Et c'est 16 000 places.
Les supporters des Lyons qui donnent de la voix durant tout le match jusqu'à en perdre la voix à la fin.
Ouais, très fort. En fait, je ne peux même pas m'exprimer parce que c'était tellement fort qu'on voulait tellement gagner. Bon, c'était normal en fait. Pour ça, ils ont assuré, je te jure, les supporters. C'était magnifique. Ouais.
Chaud, 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 chaud. On a eu chaud. Hein. La première mi-temps, on a eu chaud. On ne parvenait pas à marquer. On pêchait défensivement, offensivement aussi, ça n'allait pas. La deuxième mi-temps, on a vu que les filles sont révulsées et puis voilà quoi.
Nancy est coach de basket, elle évoque l'enjeu qui, selon elle, a plombé le jeu du Sénégal.
Parce qu'il y avait une place en finale qui était en jeu. Donc c'était normal. Hein. On a mal débuté le match. En première mi-temps, je peux dire, on n'a pas eu de réussite. Parce qu'au premier quart-temps, on n'a marqué que 8 points. On a très très mal entamé la rencontre.
Le Mozambique, ce n'est pas n'importe qui non plus, selon Wuri Diallo du service des sports du journal Le Quotidien.
On savait que c'était quand même une bonne équipe. On a vu durant le tournoi. Mais on ne pensait pas quand même que le Sénégal allait déjouer face à cette équipe mozambicaine. Elle a montré beaucoup de caractère. Moi, je vois cette équipe-là comme l'Angola. L'Angola du passé. C'est la même philosophie de jeu, c'est la même agressivité, c'est l'adresse.
Les joueuses sénégalaises ont eu chaud. La faute aussi a un excès de confiance. L'ailière Lalawane.
Dans notre tête, on ne s'était pas préparé. Ne jamais sous-estimer les équipes. Il faut toujours les respecter et leur prendre leur juste valeur. Et je pense qu'au début, on en a fait un peu les frais. Et après, à la mi-temps, on a su se réveiller aussi, se concentrer, respecter les consignes et défendre plus dur pour pouvoir revenir et gagner.
Passé cette difficile demi-finale, les esprits se tournent maintenant vers la finale face à un monstre qui s'appelle le Nigeria, l'équipe la plus impressionnante du tournoi. Les supporters sénégalais gardent quand même espoir.
Bon, le Nigeria, c'est vrai, c'est un gros morceau. Nous aussi, quand on a notre philosophie et on va jouer sur nos valeurs. Elles ont montré que ce sont des lions. Nous, c'est comme ça, quand même. C'est notre coutume au Sénégal.
On espère gagner la Coupe, on est chez nous.
Je dirais que ce sera un match de guerriers, quoi, de titans. Il faut combattre.
Ambiance, ambiance. Spectacle garanti ce dimanche au Palais des Sports de Diamniadio. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Le Sénégal qui affrontera ce dimanche le tenant du titre en finale, le Nigeria, tandis que le Mozambique et le Mali s'affrontent pour la médaille de bronze. Et puis un tout petit dernier résultat à vous donner, Eric. L'Angola a pris la 5e place devant la RDC. C'est assez important puisqu'en fait les 6 premières équipes vont participer à un tournoi de pré-qualification olympique en fin d'année. Donc pour récapituler, on aura donc le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique, le Mali, l'Angola et la RDC.
Et puis pour être totalement complet sur le basket, merci Martin. Sachez que l'équipe de France a remporté son dernier match de préparation sur son sol à Villeurbanne en écrasant l'Argentine 77 à 58 pour les basketteurs français. Maintenant, ça va se passer en Chine, la suite de la préparation avec des matchs face à la Nouvelle-Zélande, l'Italie et la Serbie. Le mondial, il commence en Chine dans 2 semaines.
Et pour refermer ce mondial sport, du rugby avec la Coupe du Monde, là aussi au Japon en perspective, c'est dans un mois, sursaut de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Elle a été intraitable face à l'Australie à Auckland, victoire 36-0, ça va faire du bien au moral des champions du monde en titre, passés à côté du rugby championship en étant tenu en échec par l'Afrique du Sud et en s'inclinant en Australie. Un résultat insuffisant pour éviter aux Blacks de perdre toutefois la première place du classement mondial qu'ils occupaient depuis 10 ans, c'est le Pays de Galles qu'il a récupéré en battant l'Angleterre 13-6. Mais revenons à l'Afrique du Sud. C'est elle qui a remporté le rugby championship que d'autres préfèrent appeler le Four Nations. Le sans faute des Springboks en 2019 se poursuit donc. Après leur large victoire en Argentine la semaine dernière, ils ont de nouveau battu les Pumas à Pretoria aujourd'hui. Ce fut plus dur, 24-18, mais l'équipe était largement remaniée. En tous les cas, le renouveau des Sud-Africains arrive à point nommé avant le mondial. Reportage de Noé Ochebaudin.
Pour les Springboks, ce premier Four Nations depuis 10 ans, c'est une renaissance. Renaissance aussi pour leurs supporters, comme Devet, qui avait fini par perdre la foi.
Oui, carrément, j'étais très frustré pendant des années, mais j'espère que maintenant l'équipe va continuer sur cette lancée. Ce serait fantastique. Pendant un certain temps, les joueurs se cherchaient, ne savaient pas trop quel style de rugby développer. Et maintenant, on a réussi à créer notre propre ADN. On est plus tourné vers un jeu de mouvement, de passe, de relance. Et je suis sûr qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. The skills are
there. Un long travail à l'entraînement que confirme en effet l'ailier Zboum Kossi, homme du match ce soir avec 2 essais à son compteur.
Oui, on est en super forme. On a beaucoup de combinaisons, beaucoup de joueurs compétitifs, mais on a tous créé des automatismes entre nous. Pour le dire simplement, on est en grande forme.
D'autres supporters, en revanche, n'ont pas été surpris par ce retour sur le devant de la scène internationale de leur équipe. Jason a assisté à tous les matchs des Box à domicile depuis 8 ans.
Je ne suis pas du tout surpris, surtout si l'on regarde le travail du sélectionneur Rassi Erasmus. C'est le premier coach à être capable d'aligner 2 15 compétitifs. Je pense qu'Erasmus est arrivé 10 ans trop tard. C'est le meilleur coach possible pour nous et je suis sûr qu'on va atteindre la finale de la Coupe du Monde au Japon, où je me rendrai d'ailleurs.
L'apport de Rassi Erasmus a en effet été synonyme de retour en force. Avec un effectif pléthorique, l'entraîneur aura fort à faire pour sélectionner sa liste de joueurs.
Je ne vais pas dévoiler les noms aujourd'hui, mais j'ai eu des confirmations et des déceptions ce soir. Demain, pendant la journée, on va faire le bilan. On va prendre beaucoup de joueurs pour notre camp d'entraînement à Bloemfontein, 37 en tout. Et l'effectif final sera annoncé le 26 août. Mais oui, nous avons eu des réponses aujourd'hui.
Parmi les éléments positifs, le retour du capitaine Siya Kolisi. Mais récemment, les Verts et Or ont découvert une pépite de 23 ans, le demi de mêlée Herschel Jantis, qui a marqué 3 essais en 2 apparitions seulement. Stéphane est déjà fan.
Personne ne le connaît bien à l'international, c'est pour ça qu'il est si bon. Mais nous, on l'avait vu venir depuis longtemps, depuis les écoles de jeunes. L'an dernier, il a connu une saison difficile en club. Cette année, il est en forme et il est au bon moment, au bon endroit. Et le coach croit vraiment en lui. Mais au-delà de Jantiès lui-même, c'est leur pic de forme à tous qui intervient au bon moment.
Effectivement, Siya Kolisi a donc effectué son retour aujourd'hui. Il a joué 50 minutes pour son retour de blessure. Ce sera lui qui emmènera les Box dans un mois au Japon. Noé Ochebaudin, Pretoria, RFI.
Saluons enfin la victoire du 15 de France sur l'Écosse, 32 à 3 à Nice ce soir. On en reparle demain dans Mondial Sport. La soirée continue sur RFI. Merci à Alice Ménard derrière la vitre du studio pour la réalisation de cette émission.